locale à la DGFiP, qui va donc nous parler de la dématérialisation des procédures comptables. Alors, je m'excuse, madame, de vous imposer 2 à 3 minutes de moins qu'à vos collègues, mais pour qu'on puisse poser quand même quelques questions.
Bien sûr, bien sûr. Ce projet est un projet majeur pour la Direction générale des finances publiques. C'est le premier, projet de la gestion publique. Vous savez que la DGFiP est issue de la fusion entre l'ancienne Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique. Et à l'intérieur de cette DGFiP, il y a entre guillemets 3 pôles. Un pôle transverse, ressources humaines, budget. Un pôle métier fiscal, un pôle métier gestion publique. Donc pour le pôle gestion publique, il s'agit du dossier majeur, entre autres, la dématérialisation du secteur public local. Alors, toute la chaîne comptable et financière, ça veut dire quoi? Tous les acteurs associés à cette chaîne comptable et financière. Donc je commencerai par les premiers, les ordonnateurs, que sont les élus, des collectivités locales. Mais on a également les établissements publics de santé, les hôpitaux qui sont dans cette maille, ainsi que les offices HLM. Donc c'est vraiment tout le secteur public local dans son ensemble. Donc ordonnateurs, qui associent les ordinateurs, leurs comptables, parce que chaque collectivité locale a un comptable du Trésor public, et enfin le juge des comptes, celui qui va regarder si la tenue des comptes est bien faite, si les opérations sont bien réalisées, donc le juge des comptes. Voilà, donc planter le décor. Alors, pourquoi la dématérialisation? En fait, c'est le fruit d'un chantier très, très important qui s'étale sur plusieurs années. En fait, parce que les organismes publics locaux et les services de l'État échangent beaucoup. Donc on en a parlé là toute l'après-midi. Échangent beaucoup. Et il y a des synergies entre les dispositifs. Alors Helios, c'est quoi? C'est l'application qui suit la comptabilité des collectivités locales à la DGFiP. Donc on a des dispositifs, on en a parlé tout à l'heure également avec ACT, qui convergent. Et puis on a des partenaires, la chaîne comptable et financière, des organismes locaux en particulier. Donc on a vraiment une évolution croissante des échanges. Beaucoup de factures à payer en plus pour les collectivités locales, beaucoup plus de recettes à faire entrer, avec une démultiplication des titres de recettes. Je pense notamment aux hôpitaux, à l'expérimentation de la facturation. Pour chaque malade, il y aura une facturation, donc les volumes sont multipliés par 3. Donc la dématérialisation permet de répondre à ces enjeux. Pourquoi? Parce qu'elle permet de s'adapter facilement à la volumétrie. Elle a des avantages renforcés si on fait une dématérialisation de bout en bout, c'est-à-dire pas de rupture dans la chaîne, de l'ordonnateur jusqu'au juge des comptes, et des avantages renforcés. Pourquoi? Parce qu'on va dématérialiser à la fois ce que j'appelle les pièces comptables, un mandat par exemple, qui donne l'ordre au comptable de payer, un titre de recette, mais également la pièce justificative qui accompagne ce mandat, par exemple une facture ou un titre, par exemple, s'il y a une cantine à payer sur les parents qui viennent payer la cantine à la mairie, par exemple, de la ville de Paris, donc il y a un titre derrière qui est un titre de recette et c'est accompagné par un état liquidatif. Voilà, donc c'est tout ça qu'on a comme ambition de dématérialiser. Alors, l'intérêt pour tous les partenaires de cheminer progressivement vers une cible, donc on va regarder pourquoi, les avantages. En fait, on va retrouver un petit peu ce que m'ont exposé ma collègue. Bon, le premier, c'est surtout les souplesses d'adaptation au volume. Ça, c'est sûr qu'on n'a plus de soucis. Que l'on gère 500 mandats ou qu'on en gère demain 10 000, par la dématérialisation, ces volumétries seront gérables. L'avantage, surtout acquis, entre guillemets, c'est d'échanger mieux avec l'ordonnateur, c'est-à-dire être capable de lui donner... Lorsqu'il nous envoie un titre de recette, être capable de lui dire voilà ce qu'on a encaissé et de lui restituer l'information très rapidement. Ce qui n'est pas le cas actuellement, ou de façon plus compliquée. Ce qui est par contre très prégnant, et on le voit parce que la ville de Paris a basculé en dématérialisation totale sur la dépense, c'est que les fournisseurs sont payés 20 jours plus tôt. Donc on voit tout l'enjeu au niveau des fournisseurs pour les hôpitaux, où les enjeux sont majeurs, dans le délai de règlement des fournisseurs. Alors évidemment, l'optimisation des chaînes administratives, les services de l'ordonnateur, les villes et les communes qui ont travaillé sur une dématérialisation complète en ont profité de la chaîne comptable pour aller au-delà. C'est-à-dire comment je réorganise mon service achat, comment je remutualise, comment je gagne des compétences. Il y a eu toute une réflexion, si vous voulez, de base au niveau des collectivités locales. Enfin, plus de décloisonnement de l'information. Il y a souvent dans les grosses collectivités une différence entre les services financiers et les services informatiques. Donc travailler sur un projet de démat permet également de mettre tout le monde ensemble, et de, ça a été le cas à la ville de Paris, c'est le cas actuellement sur la ville de Viroflay, de mettre tout le monde ensemble. Voilà. Alors, renforcer la capacité de pilotage, ça je l'ai dit, meilleur tableau de bord, surtout au niveau de l'ordinateur, des échanges fiables, ça c'est le deuxième argument, des échanges fiables. Pourquoi ? Parce que le protocole que nous allons véhiculer d'échange entre les informations va respecter des normes. Donc on ne véhiculera pas n'importe quoi. Donc les comptes sont de qualité. Donc on va permettre la maîtrise de la fiabilité des enregistrements comptables, centralisés en un seul endroit, et non plus sur des papiers épars. Ça peut être le cas. Il y a encore des collectivités qui ne sont pas du tout informatisées, même actuellement, hein, qui sont encore sur un bout de papier. Donc ça va permettre de tout centraliser à un seul endroit. Et puis sécurisation de la gestion comptable et financière, c'est-à-dire de plus en plus de vérifier, on parle d'auditabilité des comptes. Il ne faut pas oublier que les comptes hospitaliers vont bientôt être certifiés. Donc toute cette dématérialisation va dans ce sens-là. Alors, réduction des coûts, hein, de production des documents papier, je n'y reviens pas parce que c'est le même sujet que pour acte. Réduction des coûts d'archivage, bien sûr, et recentrer le travail des différents agents sur un travail de valeur ajoutée et non plus faire des photocopies, classer, déclasser. Surtout quand on transmet le compte de gestion au juge financier, où il faut classer dans un certain ordre, il est évident qu'avec la dématérialisation, tout sera fait de façon automatique. Et si je prends par exemple le cas de la périrégionale, parce qu'avant j'étais fondée de pouvoir dans la Somme, il y a encore 2 mois, c'était 6 mois pour classer le compte de gestion de la périrégionale de la Somme, enfin de la région Picardie, pardon, c'était 6 mois de vacataire à faire que ça. Donc ça donne à peu près, et c'est une petite région, donc ça vous donne un peu une idée. Voilà, donc la diapo. Alors, j'en reparle pas, bien sûr, coordination avec les opérations de l'État au niveau de acte préfecture qui vous a été présenté, et l'outil Helios comptable public, ben c'est logique, parce que dans la comptabilité, le comptable a besoin des actes. Il a besoin des marchés publics, il a besoin des budgets. Donc, lorsqu'il y a le projet acte, la collectivité transmet son budget pour le contrôle de l'égalité. Il va au caractère exécutoire, et je dirais quelques temps après, pas concomitamment, mais un tout petit peu après, ces mêmes actes nous sont envoyés de façon dématérialisée sous le même format XML, donc dans l'application Helios. Donc c'est bien cet objectif, et plus tard tout mettre. Voilà, alors, là j'insiste beaucoup parce que c'est un sujet qui est très méconnu de notre public. Alors l'accès à la dématérialisation, c'est quelque chose qui a été négocié, et tout le monde normalement est censé être au courant, a été négocié avec tous les partenaires. C'est-à-dire pas que la DGFiP toute seule dans son coin, y a été associée la DGCL, d'autres administrations de l'État, mais également des représentants d'élus. Alors si on peut passer à la diapo suivante, voilà. Donc il y a une charte nationale partenariale, signée le 7 décembre 2004, avec 13 associations d'élus, de national d'ordonnateurs, la plus connue étant l'AMF, l'Association des maires de France, mais vous avez également représenté les conseils généraux, les conseils régionaux, les syndicats d'eau, par exemple, qui font de l'assainissement ou de la livraison d'eau, entre guillemets, également les hôpitaux sont représentés, les HLM, tout le monde. Donc tous les syndicats, tous les représentants d'élus participent, je dirais, à cette structure nationale partenariale avec 6 administrations centrales de l'État, donc la DGFiP dont je fais partie, la DGCL, mais également la Direction Générale qui représente les hôpitaux. Entre autres, hein, il y en a d'autres, vous voyez. Et bien sûr, j'allais oublier le dernier partenaire, un des plus importants, la Cour des comptes, hein, qui va représenter les chambres régionales des comptes. Voilà, donc cette charte nationale, en fait, signée le 7 décembre, a abouti, et ça c'est essentiel, à une convention cadre nationale du 18 janvier 2010. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette convention ? Elle dit ce qu'on fait. Comment on échange entre les ordonnateurs, les comptables et le juge des comptes. Elle va définir, cette convention cadre, exactement, de façon très technique, ce qu'il y a dans le nouveau protocole d'échange standard, le fameux PES, dont on parle, qui est rendu obligatoire par l'arrêté du 3 août 2011. D'accord ? Donc c'est strictement défini et mis à jour en partenariat. La DGFiP ne peut pas modifier par elle-même le protocole d'échange standard. Ça se fait en partenariat. Voilà. Donc, 2 évolutions majeures pour la DMAT. au 1er janvier 2012, donc on avait déjà préparé le terrain. On a essayé de supprimer au maximum les disquettes. Parce que vous savez, il y avait encore des collectivités qui changeaient sous des vieilles disquettes, vous savez, des disquettes noires. Donc on maintenait à grands coups dans l'administration du Trésor public des vieux micros, vous voyez ce que je veux dire, avec les vieilles disquettes. Non, ça on s'est dit quand même, c'est terminé. Donc on a demandé, à partir du 1er janvier 2012, d'avoir un CD-ROM, enfin d'avoir au moins un autre support de communication, entre guillemets, on va dire ça comme ça, d'échange, en attendant que le PES, hein, le PES protocole arrêté en structure partenariale, soit appliqué au plus tard au 1er janvier 2015. Alors, vous savez qu'il y a encore, je disais au Récollant tout à l'heure, mais moi je l'ai vécu quand j'étais dans la Somme, il y a encore des petites collectivités, 13, 15, 15 habitants, parce que c'est ça la ruralité, qui sont encore en manuel, et pour celles qui ont un ordinateur, qui font encore de la disquette. Donc c'est un, je dirais, un enjeu majeur d'essayer de les faire passer à l'ère dématérialisée. Voilà, mais ce que, sur, oui, ce que je ne vous ai pas dit, sur 117 000 budgets, 7 000 concernent des collectivités supérieures à 3 500 habitants. Donc ça veut dire qu'à 110 000, toute petite collectivité. Voilà à peu près l'enjeu. Et actuellement, on n'a dématérialisé que 1 000 budgets. Vous voyez l'enjeu qu'il nous reste à faire jusqu'à 2015. Voilà. Bon. Alors au 1er janvier, date butoir, suppression des protocoles d'échange historiques que l'on a actuellement, parce qu'on en a. Hein, Indigo, pour ceux qui connaissent. On le remplace par le PSV2. Aller. C'est vrai que pour l'instant, on n'est capable de faire que de l'aller, c'est-à-dire de l'ordonnateur au comptable, à la fois sur les domaines recettes et dépenses. On est en train de travailler avec la structure nationale partenariale sur le PES retour, c'est-à-dire comment alimenter les ordonnateurs de nos retours. Et puis surtout, on travaille, pour faire le lien avec ma collègue, et c'est qu'elle sera opérationnelle à la fin de l'année, sur le PES budget. C'est-à-dire que tout le budget va passer également en dématérialisé. Voilà, donc ce protocole permet de transmettre les flux comptables, recettes, dépenses, les pièces budgétaires, mais également de dématérialiser toutes les pièces comptables, c'est-à-dire les titres de recettes, c'est-à-dire l'ordre d'encaisser la recette hein, qui est donné aux comptables, le mandat, mais également les bordereaux, parce qu'on a des bordereaux, vous savez, qui récapitulent à l'intérieur, on a un bordereau par exemple, qui récapitule plusieurs mandats. Donc ça c'est dématérialisé, et c'est ça qui est obligatoire, au 1er janvier 2015. Ce qui n'est pas obligatoire, par contre, c'est la dématérialisation des pièces justificatives. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas imposer aux collectivités locales, qui ont en droit français la libre administration, on ne peut pas leur imposer de dématérialiser leurs pièces justificatives, si elles ne le veulent pas. Donc c'est pourtant ce dossier-là qui est majeur. Parce que le PES, nouveau protocole d'échange standard, contrairement à celui qui existe actuellement, permet de transporter les pièces justificatives. Notre protocole actuel ne le permet pas. C'est-à-dire que si je continuais à on est quand même beaucoup dématérialisé hein, sur l'aspect comptable de la chaîne. Mais j'ai par exemple mon agent qui va exploiter la pièce comptable et quand il va vouloir vérifier avec la pièce justificative, soit c'est du papier qui lui est transmis, soit c'est un CD-ROM, soit c'est une disquette, ce qui en reste encore hein, malgré tout, soit c'est mis à disposition par un site intranet de l'information. Donc l'enjeu, il est bien sur la démat des pièces justificatives, les factures, hein, les marchés publics, la paye, c'est 80% des enjeux en volumétrie. Donc ça veut dire que j'ai à la fois les pièces comptables en dématérialisé sur mon écran, et j'ai un double écran, hein, c'est ce qui se passe à la ville de Paris, pour les comptes, le comptable de la ville de Paris, j'ai un double écran qui me permet de regarder à côté ma pièce comptable et ma pièce justificative dématérialisée. Voilà, donc le sujet, c'est surtout les pièces justificatives. Alors, si on peut passer à la suivante. Voilà, donc la démarche. En fait, deux grands pavés. Le PSV2, donc c'est mon protocole d'échange standard, le nouveau, qui doit être obligatoire plus tard au 1er janvier 2015. Donc, je peux dématérialiser les pièces comptables. Mais l'enjeu, c'est surtout les pièces justificatives. Vous voyez, les pièces justificatives passation de marché, d'exécution de marché, les délibérations, les états de paye, par exemple, dette sociale, etc., etc. L'enjeu, il se situe surtout dans le pavé PJ, piège justificatif. Voilà, donc on essaye au maximum, lorsqu'on monte un projet de démat, d'avoir la vision globale avec l'élu. Voilà, donc ça, ce sont les préconisations, vous voyez, de la convention cadre nationale conclue avec les trois acteurs, hein, État, juge des comptes, entre guillemets, et collectivité locale. On peut passer à la suivante. Alors, ce que je disais, j'ai un peu vendu la mèche avant. La réussite du chantier de DEMAT, en fait, de dématérialisation des pièces comptables et justificatives, est donc conditionnée par la mobilisation de tous les acteurs. Donc, à la fois, c'est la suivante, les acteurs du réseau de la Direction générale des finances publiques, dont je fais partie, mais moi, tout en haut, vers la pyramide tout à l'heure. Donc, le premier point d'entrée de l'ordonnateur, lorsqu'il veut dématérialiser, c'est bien le comptable. C'est son comptable. Il lui tient ses comptes, mais il le conseille également. Donc, il va le conseiller sur la démat. Le comptable fait partie d'un réseau, donc d'une direction départementale des finances publiques ou régionales. Donc, il pourra en parler à sa direction donc départementale. Au niveau des ordonnateurs, qu'est-ce qu'on a comme réseau ? Bon, on a les élus, bien sûr. Les présidents de syndicats, les présidents d'intercommunalités, communautés d'agglos, par exemple, mais également les directeurs d'hôpitaux, etc., etc. Et on a des relais d'information. Vous savez, des structures nationales, l'AMF, par exemple, a des relais d'information dans chaque département. Donc on espère bien faire la jonction. Et on a prévu, avec les élus, au niveau national, de faire une action de com' ensemble. Voilà. Donc c'est un sujet très vaste. Alors voilà la fameuse pyramide. Alors tout en bas, c'est le niveau départemental. Tout en bas. Post-comptable, ce sont les trésoreries, si vous voulez, ce sont les comptables, qui sont en relation avec les collectivités locales. Voilà, c'est eux, vous voyez, premier niveau d'appui du département, des comptables à leurs ordonnateurs. Donc c'est bien les comptables, le point d'entrée. Mais comme ils ne connaissent pas la DEMAT, les aspects techniques, c'est trop compliqué, ils bénéficient de l'assistance d'un correspondant dématérialisation au niveau département. Donc chaque direction départementale, il y a un correspondant DEMAT. Nous avons créé une cellule d'appui à la DEMAT qui se situe cette fois au niveau régional, un petit peu comme la collègue en Bretagne qui avait expliqué que le niveau régional est important pour les synergies et la mutualisation. Au-dessus, bah oui, c'est un chantier très important sur la conduite du changement. Les collectivités locales, lorsqu'elles font de la DEMAT complète, c'est de remettre à plat leur processus, c'est tout repenser. Donc il faut de la conduite d'accompagnement du changement, mais également au niveau des trésoreries, des comptables, des agents, parce que c'est une autre façon de travailler. Donc il faut, c'est pour ça qu'on a mis des pilotes d'accompagnement du changement. Ce sont des fonctionnaires qui ont la gestion, entre guillemets, du réseau départemental, qui seront là pour superviser et puis, on va dire, harmoniser, donner des conseils aux correspondants des maths. Mais surtout, ils vont me servir à moi de relais d'information pour savoir ce qui se passe sur le terrain, et puis moi leur dire ce qui se passe au niveau de la mission nationale. La MDD donc est tout en haut, vous voyez. Alors la mission nationale de DEMAT a quand même un rôle important, c'est que nous travaillons actuellement, on a gardé une mission importante, c'est la validation des éditeurs de logiciels. Pour garantir la qualité des flux qui sont échangés par le protocole d'échange standard, il faut que les éditeurs de logiciels respectent, entre guillemets, le standard PES. Donc nous avons mis au point des contrôles et nous validons les éditeurs. Est-ce qu'ils sont capables de proposer un produit avec un protocole d'échange standard qui satisfasse à nos conditions, je dirais un peu draconiennes, de qualité des comptes. Donc c'est nous, à la mission dématérialisation, qui validons ces éditeurs. Par exemple, la société, je ne sais pas, il y a CGFI, il y a Bull, on retrouve tous les grands de l'informatique. Et quand ils ont ce label, dans un deuxième temps, on va pouvoir enclencher, par exemple, le chantier Ville de Paris, le chantier Perpignan, par exemple, la région d'Aquitaine, enfin, vous voyez. Mais il faut d'abord que l'éditeur soit validé. Alors, actuellement, on en a encore 2-3 avec qui nous avons un peu de mal. Mais on a espoir d'y arriver pour la fin de l'année. Voilà donc la pyramide. Alors, pour terminer, j'en ai presque fini, pour faciliter la mise en œuvre de la DEMAT, la DGFiP a mis, entre guillemets, des outils à disposition des organismes locaux. Ça peut passer à la suivante. Donc, le fameux portail gestion publique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça permet d'avoir, pour l'ordonnateur, d'avoir une information à partir d'un certificat qui lui est donné par son comptable. L'ordonnateur peut savoir exactement, par exemple, ce qu'il a en caisse. C'est une information qu'il n'avait pas avant. Il peut avoir, en consultation uniquement, il peut savoir ce qu'il dispose dans son compte 515, son compte bancaire, entre guillemets. Il peut savoir combien il lui reste, il peut savoir si un mandat a été payé. Non, mais c'est une vision, je dirais, pour l'instant, sans échange, qui n'est pas remise à jour, je dirais aussi souvent, que lorsqu'on fera le PES retour. Voilà, donc on a également, en ce qui concerne les pièces comptables, et uniquement celles-là, mis à disposition gratuitement aux collectivités locales, une signature électronique, uniquement pour les pièces comptables. Parce qu'on l'a vu, pour les pièces budgétaires, il faut la preuve, donc c'est plus compliqué d'être en train de regarder au niveau des pièces justificatives et les documents budgétaires, comment on fait pour les certificats et les signatures électroniques, parce qu'il faut la preuve. On a la Cour des comptes derrière, qui est très vigilante sur ce sujet, donc ce n'est pas encore totalement bouclé, mais sur les pièces comptables, oui. Donc le sujet signature électronique, c'est bon. On met aussi également, alors ça c'est un logiciel libre, entre guillemets, qu'on a adapté, l'outil Xemelios, qui permet, entre autres, de lire du format XML. En clair, ça veut dire que la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes, par exemple, quand elle veut accéder à une commune qui est totalement dématérialisée ou partiellement, elle a accès par l'outil Xemelios, elle peut tout lire, tous les fichiers qui sont sous forme Xemelios. Donc les actes budgétaires, ils passent dans actes, mais également tout ce qui est dans Helios sous format XML. Pareil à disposition du comptable, à l'ordonnateur. Voilà. Et puis, le dernier point, je l'ai déjà évoqué, sur les éditeurs de logiciels. Hein, donc, on vérifie à la mission, ça c'est un rôle important, qu'ils sont bien à jour, que c'est bien les bonnes versions. Et normalement, comme c'est un décret de l'année dernière, c'est une évolution réglementaire, normalement, ne devrait pas être facturé. C'est bien ce qu'avaient demandé les élus, hein, d'avoir un caractère réglementaire à ce protocole d'échange standard, hein, qui le rend obligatoire. Bon, mais malgré tout, on voit que les éditeurs, lorsqu'ils font leur versionning, entre guillemets, facturent, entre guillemets, mais une mise à jour, hein, de leurs produits. Donc il y a des discussions là-dessus. Voilà. Et puis, donc pour conclure, donc on a commencé par des organismes volontaires. Il faut toujours, pour entraîner les autres, commencer par ceux qui veulent bien y aller, parce que c'est quand même une remise à plat des circuits, hein, c'est quand même pas rien. Au moyen de contact direct pour promouvoir la dématérialisation, c'est-à-dire c'est le comptable qui rencontre son ordinateur, on en discute. Pour l'instant, sur les 56 000 collectivités locales, si je rajoute les hôpitaux, les HLM, plus les petits budgets qui y a à côté, sur 80 000 collectivités, hein, 117 000 budgets, je vous ai dit, hein, mais 80 000 collectivités, pour l'instant, à ce jour, j'en ai passé que 330. Donc vous voyez ce qu'il me reste à faire d'ici 2015, avec tout le monde. Voilà. Bah oui, ça me permet de faire le lien avec la date butoir de généralisation du PSV2, 1er janvier 2015. Voilà. Et puis, les préparatifs, il faut faire les tests, enfin, il faut mobiliser tout le monde, donc il va falloir accompagner tout le monde, aller sur place. Donc je vais beaucoup me déplacer, voir les collègues, essayer de leur expliquer, faire des colloques également, parce que je suis invité à Montpellier, pour exprimer auprès des collectivités locales le projet, voir ça ensemble. Donc le comptable public, ça j'insiste, demeure bien l'interlocuteur privilégié, donc le trésorier en premier, c'est lui qui donne les bons conseils, entre guillemets, et quand il y a un souci, il fait remonter par le réseau. Alors nous avons, et j'en terminerai par là, une importante communication à faire, bien sûr, mais aussi à former tous les secrétaires de mairie à dématérialisation. Parce que si on peut convaincre l'élu, encore faut-il aussi convaincre ses équipes. C'est pas toujours gagné, parce que c'est eux qui font le travail, hein, sur le concret. Donc on a prévu également des formations avec le CNFPT au niveau des collectivités territoriales. Et puis donc on espère tirer tout cela. Et c'est la raison pour laquelle à la DGFiP, on a demandé à chaque numéro 1, c'est-à-dire les anciens TPG, hein, les directeurs départementaux régionaux, de s'engager sur un plan de dématérialisation, donc qui va partir de 2013 jusqu'en 2014, fin 2014, de passer en priorité les grosses collectivités, conseils régionaux, conseils généraux, les grosses communes de plus de 50 000 habitants, et on leur a demandé de s'engager sur les objectifs. Alors les objectifs, c'est quoi? Juste quelques chiffres. Comment on calcule notre taux de dématérialisation? En fait, on a fait un recensement, et on a compté en nombre de feuilles A4 recto. Donc il y a 1 milliard de feuilles A4 recto qui sont émises par les collectivités territoriales, y compris les hôpitaux. Un peu moins de la moitié, ce sont des pièces comptables et financières. D'accord? Un peu moins de 500 millions. Et à peu près la moitié sont des pièces comptables et l'autre moitié des pièces justificatives. Donc on mesure notre taux de dématérialisation en fonction de cela, des feuilles A4. Donc chaque fois qu'une collectivité aura engagé le processus, hop, on va la bonifier. Vous avez réalisé votre objectif en feuille A4 et on espère atteindre pour le 1er janvier 2015. Bon, ça paraît difficile avec les toutes petites collectivités, ça va être quelque chose. Mais au moins, au niveau des grosses et avec les hôpitaux, avoir au moins réussi ce passage. Voilà ce que je voulais vous dire donc, sur ce sujet primordial de la DGFiP et qui s'inscrit bien dans un contexte de démat au niveau de l'administration.
Voilà, merci.